Je vous parle ce matin de Marie, ce n'est pas parce que traditionnellement toute retraite se termine par un chapitre sur Marie. C'est parce que Marie est vraiment le prototype du chrétien justifié par Dieu. Elle est vraiment la première dans cet ordre-là. Si bien que Marie, vous ne savez pas, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dont nous parlions au début, a dit un jour qu'elle était saturée, termon, des prêtres, quand ils parlaient de Marie. Parce qu'ils en parlaient dans des termes qui faisaient qu'elle était entre ciel et terre et elle n'était plus des nôtres. Donc elle a dit, oui, que ces sermons la fatiguaient. Ce que ça veut dire, c'est que Marie est vraiment des nôtres. J'oserais presque dire qu'elle n'est pas exceptionnelle, même si elle vit une exception, mais elle n'est pas exceptionnelle. Et c'est pourquoi je vous propose là de faire une méditation, parce que ça sera plus fondé, disons, sur les textes de l'Écriture, qui, reconnaissons-le, ne nous disent que très peu de choses de Marie. Pas beaucoup d'informations historiques. Donc c'est plus une réflexion, une méditation de foi qui nous amène à dire quelque chose sur Marie. Je vous lis d'abord ce que l'on trouve dans l'Évangile de saint Matthieu, qui est beaucoup plus court sur l'enfance de Jésus que Luc. Donc dans saint Matthieu, voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la diffamer publiquement. Il était obligé, normalement, selon la loi. Il enfreint la loi en ne dénonçant pas Marie. Donc, il ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint, et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le nom Jésus veut dire précisément « Dieu sauve ». Voilà ce que nous dit Matthieu de la venue au monde de Jésus. Luc, se place avant le dilemme de Joseph. Luc se place à l'heure où l'ange Gabriel annonce à Marie que Dieu l'a choisie pour être la mère de Jésus, qu'on appellera « Fils du Très-Haut ». Donc l'ange sollicite, c'est important, sollicite l'accord de Marie. Et on va y revenir, il ne l'appelle pas « Salut Marie », donne un tout autre nom, puisque c'est un nom qu'il lui donne, favorisé de Dieu. C'est pas un titre, c'est un nom dans le texte. Hein. Donc il change son nom, comme Abraham qui va devenir Abraham, comme Simon qui va devenir Pierre. Donc Marie devient favorisée de Dieu. Ce mystère de Marie qui enfante Jésus, le Fils de Dieu, ce mystère est bien sûr inépuisable, on n'aura jamais fini de lire et d'en parler, mais on peut dire que ce mystère est l'expression totale, on va dire achevée, de l'union de Dieu avec l'humanité. Alors quand on dit l'humanité, c'est nous en personne, hein. L'union de Dieu avec nous. Donc, je vous le disais, l'ange l'appelle favorisé de Dieu ou bien dans d'autres traductions, comblé de grâce. C'est la même chose. C'est un nom nouveau et un nom qui nous renvoie au Cantique des Cantiques où vous trouvez la bien-aimée, la favorisée. Donc, l'ange ne dit pas Marie, mais comblé de grâce. Parce que vous voyez bien quand Luc ou Matthieu évoque quand Luc évoque l'épisode de l'Annonciation, Luc bien sûr n'y était pas. Comment a-t-il pu nous donner ce récit? Alors probablement par des confidences qu'il a pu avoir de Marie. Même ces confidences les expriment, si vous voulez, dans la langue biblique qui est la sienne. Ou il va faire des rapprochements, par exemple avec le Cantique des Cantiques, ou avec d'autres naissances extraordinaires que l'on trouve, par exemple, pensez à l'histoire de Samuel, au livre de Samuel, vous retrouvez des termes même, une construction du texte identique. Donc, un, ce n'est pas un livre d'histoire au sens historique. Deux, c'est une lecture, on peut dire, déjà théologique ou christologique. C'est-à-dire, Luc rend compte d'un mystère, mais après Pâques, donc avec tout le soubassement de sa foi en la résurrection. Alors, dire que c'est une vision transformée, non. C'est une lecture encore beaucoup plus profonde, parce qu'il perçoit, après coup, la profondeur, la totalité du mystère qui s'est passé. Donc c'est, alors, on va vous dire c'est revu, donc c'est pas vrai, non. C'est comme dans la poésie, si vous voulez. La poésie, elle vous dit des choses vraies, et quelquefois plus complètes, que c'est un enregistrement. Excusez-moi de la comparaison. La Fontaine fait parler le corbeau, le renard, on entre positivement dans le jeu, on perçoit ce que ça veut dire, mais on n'est pas dupe, on n'est pas dupe du langage. N'empêche que La Fontaine nous en dit peut-être davantage que ce qu'on trouverait dans un livre scientifique de psychologie. Proportion gardée, on peut dire que l'Évangile, et surtout là, c'est un peu la même chose. Donc, ce nom nouveau donné à Marie pose une question, mais je pourrais l'affirmer tout pareil. Ne serait-ce pas l'indice de la faveur singulière que Dieu favorisait, hein, la faveur singulière que Dieu a réservée à Marie? Alors, c'est ce que dit le dogme de Pie IX, le dogme de l'Immaculée Conception, hein, qui est assez récent. C'est le milieu du XIXe, c'est quelques années avant Lourdes. Donc, voilà comment prime le dogme. Marie, favorisée de Dieu, alors, bien en vue du mérite de Jésus-Christ, sauveur du genre humain. En plus simple, si vous voulez, Dieu n'a pas choisi Marie parce que c'était une femme exceptionnelle. Dieu a choisi Marie par pure grâce, c'est-à-dire de l'élection, en vue de la demande qu'il allait lui faire, qu'il a fait bénéficier de la grâce de Pâques anticipée. Il ne choisit pas la meilleure, il choisit une, et il l'a fait bénéficier à l'avance de la grâce qui viendra après, de la grâce du Christ. Vous avez des poètes ou des pères de l'Église qui vont dire que Marie donne la vie à celui dont elle la reçoit. Vous voyez ? Marie donne la vie au Christ dont elle reçoit la vie. On a un hymne français qui dit oui, tu donnes ton sang à celui dont tu reçois. Élisabeth, alors ça c'est la visitation, remplie de l'Esprit Saint à l'arrivée de Marie chez elle, sera prévenue de ce mystère, mystérieusement, hein, par Jean-Baptiste qui scotte. Il a reconnu, le cousin a reconnu l'autre cousin. Tu es bénie plus que toutes les femmes, bénie aussi le fruit de ton sein. Donc Élisabeth a une révélation. Et en réponse, Marie chante son Magnificat, qui est un texte, vous le savez, qui est tissé de déclarations de la première alliance, de l'Ancien Testament. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de mon Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom. Marie s'adresse donc à Dieu son Sauveur, donc qu'elle se sait sauvée comme nous tous. Mais, alors c'est là, si vous voulez, le mystère et la faveur, elle est sauvée comme nous tous, mais la première, c'est sa conception, c'est le dogme, pure grâce, elle n'a rien mérité, elle n'existait pas avant, elle n'a rien mérité. Alors, je vous relis l'oraison du début de la messe de l'Immaculée Conception. « Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui. » Mais c'est Dieu qui l'a préparé, hein. Il avait Marie était meilleure que les autres, non. « Tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. Puisque tu l'as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de son Fils, accorde-nous, à l'intercession de cette Mère très pure, de parvenir, de parvenir nous aussi jusqu'à toi, purifiés de tout mal. Je vous prends. Donc Marie, précisons-le, participe à ce mystère par sa foi. Oui. Élisabeth, inspirée par l'Esprit Saint, en est consciente. Hein. Bienheureux, celle qui a cru. Ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Marie exprime cet acte de foi dans ce que l'on appelle son fiat, qu'il me soit fait selon ce qu'il a dit. Ce fiat, elle va le dire tous les jours, surtout aux heures décisives et troublantes même de la vie de Jésus. Pensons, parce que si vous voulez, Marie pressent tout cela au début, mais elle ne comprend pas tout. Preuve, on va dire qu'à 12 ans, quand Jésus m'a fait une fugue, quand Joseph et Marie le retrouvent 3 jours après, bien Marie chapitre Jésus. Non, mais pourquoi tu nous as fait cela ? Dans l'état où tu nous as mis. Tu réponds, mais pourquoi être étonné ? Ne saviez-vous pas que je devais être chez mon Père ? Luc ajoute, Marie gardait tous ces événements dans son cœur et les méditait. Ça veut dire qu'elle n'en comprenait pas tout le sens, même si elle en pressentait. Hein. Le départ de Jésus en mission, ça a dû être pour elle. Pensez à votre expérience que vos enfants au monastère. D'autant qu'elle était seule, semble-t-il, hein, et depuis l'année. Cana, où Jésus semble la renvoyer. Y a-t-il entre toi et moi, femme ? Et malgré tout, elle persiste. Hein, faites tout ce qu'il vous dira. Et puis, à 2 reprises, quand Jésus... Bon, une femme un jour dit « Oh, heureuse ta maman qui t'a nourri, qui t'a porté. » Et Jésus dit « Mais bien plus heureux ceux qui écoutent la parole. » Un autre jour, la famille vient le voir. Imaginez, vous arrivez au parloir du Carmel ou de l'abbaye où est votre fils ou votre fille. Puis, on vous dit « Mais ma famille, ce sont ceux qui écoutent. » La famille de votre sœur, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, d'un air de dire, bah, écoutez, vous pouvez repartir chez vous. Ouais, ta famille, maintenant, c'est sa communauté. Alors, en fait, quand Jésus dit, la véritable famille, c'est celle des écoutants, le véritable bonheur, c'est encore d'être écoutant, à l'écoute, on peut dire qu'il vise en premier Marie, qui est la première des écoutantes. Enfin, elle a dû quand même recevoir ses paroles un peu durement, mais en fait, c'est elle qui était la plus écoutante, donc qui était vraiment la famille, mais au sens, disons, spirituel. Pensez à sa situation pendant la Passion, calvaire, puis cette mission qui lui est donnée, donc qui fait éclater, disons, le lien charnel qu'elle avait avec Jésus. Sa mission, enfin quand Jésus lui confie Jean et Anne, s'il lui confie finalement. Ça veut dire que le premier oui que Marie a donné, elle continuera à le donner toute sa vie. Mais ça, si vous voulez, c'est pas propre à Marie. Quand on se marie, le oui que l'on donne, ou quand on fait profession monastique, l'acte que l'on donne ce jour-là, si on ne le redit pas continuellement, ça devient un acte mort, enfin, qui n'a les jours que ces oui premiers, ils doivent vivre et se développer même avec le temps. Parce que le oui que j'ai dit il y a 40 ans, je le redis aujourd'hui, mais il est chargé de beaucoup plus d'expérience. Peut-être moins facile à dire qu'il y a 40 ans où j'étais un peu, grâce de la jeunesse, un peu inconscient. Enfin, je ne sais pas tout ce qu'il y aurait. C'est le pape François qui, dans la loi de l'Évangile, que Marie s'est laissée conduire par l'Esprit dans un itinéraire de foi vers un destin de service, de fécondité. Et la femme de foi qui marche dans la foi, pèlerinage de foi exceptionnel, représente une référence constante pour l'Église. On peut dire que c'est le pèlerinage type du chrétien, pas un pèlerinage autre que le nôtre. Donc vous voyez, quand on dit tout cela, On part bien sûr des textes de l'Évangile, mais ils ne nous disent pas. Enfin, ils le disent, mais il faut lire entre les lignes. Hein. En fait, Matthieu, Luc nous donne un visage à la fois historique, je le disais tout à l'heure, mais aussi et surtout théologique. Une jeune fille de Nazareth, en Galilée, fiancée à un homme de la lignée de David, Joseph, et historiquement, on n'en sait pas beaucoup plus. Probablement a-t-elle confié plus tard aux apôtres avoir fait une rencontre déterminante dans sa vie, celle de l'ange Gabriel, venu lui annoncer qu'elle allait être enceinte sous l'action de l'Esprit Saint et mettrait au monde un fils à qui elle donnerait le nom de Jésus, qui sera appelé fils du Très-Haut, même fils de Dieu. Vous voyez que quand on lit ces textes de l'Évangile, on les lit avec un regard de foi. Et bien des gens nous quittent au seuil de ces mystères, arguant que Jésus est le fruit de l'amour de Joseph et de Marie, peut-être gratifié par Dieu d'un équilibre exceptionnel, mais un homme, né de l'union d'une femme, d'un homme, le reste pour eux, c'est de la mythologie. Ces naissances, on les retrouve, dans d'autres cultures. Donc c'est pas que vous avez des gens qui vont vous dire, oui, ça c'est logique. Vous avez peur et puis... Donc vous voyez, quand on lit l'Évangile, il n'y a pas à y trouver des preuves historiques, mais il y a à y trouver des signes nourrissant notre foi. C'est vrai, si vous voulez, dans ceux qui disent que l'on est dans la mythologie. Je vous le rappelais tout à l'heure en vous évoquant la réaction de Sainte Thérèse de Lisieux au sermon qu'elle entendait. C'est vrai qu'on a parfois exalté de façon excessive Marie et qu'on l'a campée entre ciel et terre. Alors, on a des images, elles sont de l'Apocalypse, mais qu'on ait des toiles vêtues de nuages, les pieds posés sur le globe terrestre. On est là très loin de la petite juive, et à ses affaires domestiques, attentif aux besoins de son entourage, comme en témoigne sa visite à Élisabeth. Cet excès provient d'une conception assez courante du salut qu'on doit acquérir au prix d'œuvres méritoires. Donc Marie aurait, de par sa qualité, aurait mérité plus que les autres la faveur de Dieu. Or, c'est pas cela. Dieu, cherchant une femme pour devenir la mère de son fils, a choisi la plus parfaite, pas la plus méritante, pas la plus digne de cette mission. Il a revêtu gratuitement une femme qu'il a choisie, Marie, il l'a revêtue des mérites du Christ ressuscité, par avance et en pleine étude, puisque dès sa conception. Mais, rappelez-vous l'oraison du 8 décembre, en vue de l'associer à l'œuvre du Christ. La question que peut soulever cette perception du mystère de la vocation de Marie, c'est si la vocation de Marie était ainsi programmée, si elle-même était par grâce entièrement vouée à Dieu, quelle marge de liberté lui restait-il dans son adhésion à la demande de Dieu ? En d'autres termes, est-ce qu'elle n'était pas conditionnée à dire oui ? D'une certaine manière, contrainte, enfin n'ayant pas la liberté de dire non, elle était programmée. Point d'interrogation. Faisons appel à notre propre expérience, la grâce de la résurrection, dont par le baptême nous avons tous été gratifiés, nous laisse entièrement libres et même plus lucides sur nos responsabilités. Que, connaissant le sens et le terme de notre vie, nous pouvons l'assumer en pleine connaissance de cause, qui veut dire que, conçue immaculée, Marie n'a rien perdu de sa liberté, de sa féminité, tout à Dieu. Elle projette de fonder un foyer avec Joseph, elle est donc de notre race, aussi près qu'elle bénéficie dès sa naissance de la plénitude de grâce dont nous, nous bénéficions aussi à notre baptême, mais en germe, un germe qui s'épanouira pleinement à notre mort. Alors reste maintenant le mystère de la destinée unique de celle à qui l'ange Gabriel, dont l'ange donne le nom de favorisée de Dieu. Et là encore, il nous faut conjuguer l'exception et l'ordinaire. Marie, elle est d'une autre espèce. Un jour, donc, je vous le rappelais tout à l'heure, une femme fait l'éloge de Marie devant Jésus. Heureux celle qui t'a porté et allaité. Réponse de Jésus, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Au jour où sa mère et ses frères tentaient de l'approcher, il déclare, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Que là, Jésus minimise la vocation de Marie au point d'avoir plus d'égard ceux et celles qui, comme l'autre Marie, la sœur de Marthe, ont choisi la meilleure part, l'écoute de la parole, qui voudrait dire que la maternité spirituelle serait pour Jésus plus profonde que la maternité charnelle. Là, il le dit, mais dans cette affirmation, c'est au fond de Marie, sa mère, dont il parle en premier, elle qui est la plus écoutante de toutes, elle qui conservait et méditait en son cœur les événements pas toujours très compréhensibles, touchant son fils, et ses propres paroles dont la parfaite compréhension lui échappait encore. Voilà pourquoi saint Jean, dans le prologue de son évangile, écrira « Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous ». Et Marie, donc, la chair est intimement vivifiée par l'Esprit Saint, tel point que la parole vivante de Dieu, que Dieu a semée en elle, peut prendre corps. Vous voyez, il y a une conjonction en Marie du charnel et du spirituel. Et nous, cohabitent souvent avec des tensions, et puis on a du mal à faire l'unité, et puis l'unité, pour nous, elle sera faite après la mort. Et Marie, l'unité existe déjà. Le charnel et le spirituel sont intimement liés. Il n'y a pas, bon, bien sûr, il n'y a pas d'opposition, il n'y a même pas de juxtaposition. Elle est tellement écoutante que la parole, au sens charnel, prend corps. C'est mystérieux, hein, je ne m'engagerai pas dans une explication. Que, si vous voulez, quand, si on pose la question de Marie, comment cela va-t-il se faire ? Une question légitime. Hein. Je me suis toujours demandé pourquoi. Oui, Zacharie pratiquement fait la même question à l'ange quand il lui annonce. Zacharie fait pratiquement la même question à l'ange. L'ange lui dit « Tu manques de foi ». Bon, Marie, intérieurement, fait pratiquement la même question à l'ange. Et là, c'est l'ange prend la question de façon... Et là, il répond. Il dit « l'Esprit Saint viendra ». Réponse à Zacharie, si tu as manqué de foi, donc tu vas être muet. Alors, il semble bien que dans la question de Zacharie, c'est « Mais voyons, c'est pas possible, mon âge est celui de... » Oui, c'est pas possible, c'est « Mais dois-je faire pour ?» Ce qui est légitime. Vous voyez, tout ce que je vous ai dit, je ne cherche même pas à vous le prouver, parce que c'est improuvable. Je ne cherche même pas à l'expliquer, parce que c'est inexplicable. Je pense même que dans l'ordre de la foi, la question de « Mais comment ça peut se faire ?» venant de nous, hein, est non avenue. Que précisément nous sommes dans l'ordre de la foi, que nous nous appuyons sur le témoignage des évangélistes, clair, qui n'étaient pas plus sots que nous. Vous voyez, nous avons là devant ce mystère, l'exemple de quelqu'un qui a très bien réagi, c'est Joseph. Quand même se posait pas mal de questions. Quand en songe il a la révélation, t'inquiète pas, cela vient de Dieu, eh bien, il acquiesce et il rentre dans le projet de Dieu. Ces questions devaient être plus lancinante que la nôtre. Saint Matthieu ajoute, c'est parce qu'il me posait la question l'autre jour, il dit de Joseph, chez lui son épouse, mais il ne la connut pas. Il enfantait, fils auquel il donna le nom de Jésus. Vous voyez dans quel sens est l'autre jour du verbe, enfin du terme connaître. Hein. On peut donc s'émerveiller de ce mystère, rendre grâce à Dieu pour son œuvre en Marie, sans pour autant tomber dans ce que l'on a appelé quelquefois la mariolatrie. Dès qu'un certain nombre de gens, enfin, qui se disent chrétiens, bon, leur demandaient ce qu'est qui, enfin, la Trinité, qu'est-ce que c'est, et en réponse, c'est Jésus, Marie, bon, quelquefois, ou bien c'est Dieu, Jésus, Marie. Que Marie, elle est l'archétype du disciple du Christ, elle est la première des sauvés. Dans son chant, le Magnificat, après la salutation de sa cousine Élisabeth, elle se reconnaît elle-même gracié, prévenu, béni, comblé. Petite devant Dieu, elle sera proclamée bienheureuse par toutes les générations. Et elle n'a pas d'autre assurance que sa confiance en la parole de l'ange. Elle laisse l'Esprit Saint accomplir en elle de grandes choses, attendant avec ses pères, toute la lignée des patriarches, attendant avec ses pères la réalisation de la promesse de Dieu, elle accepte l'impossible mission de porter le salut en personne. Elle est donc en même temps la gloire de Dieu en tant qu'elle est plénitude, enfin l'achèvement parfait de sa création. Puis, on peut dire, pas à l'opposé, mais avec un autre angle de vue, elle est, selon l'expression que vous connaissez sans doute de Bernanos dans le journal du curé de campagne, elle est la cadette de l'humanité, que dans le royaume des cieux, ils seront les premiers, et sont les derniers, la première et la dernière. J'ai tout dit, j'ai dit tout ce que j'avais écrit. Thank you.